bon mercredi. Mercredi sous la pluie dans plusieurs secteurs à Québec. Il y a du brouillard, il y a des nuages. C'est pas grave. C'est presque le printemps. Bienvenue dans l'heure CV. 10h01, un bonheur pour moi de vous accompagner. Oups, je vais mettre le son sur Twitch. Ouais, ça arrive. Twitch, c'est quoi ça? Ben, c'est des caméras en studio. Puis vous pouvez toujours vous brancher. Ça coûte rien. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vous inscrire. Ça veut dire faire un compte pour pouvoir jaser avec moi aussi dans le chat et les autres auditeurs. Vous pouvez juste y aller comme des petits voyeurs, là, comme la toune à Danny Bédard dans le temps. Ça, si vous connaissez cette chanson-là, je suis vraiment fière de vous. Ouais, Twitch, c'est ça. Twitch.tv/BLVD/FM. Puis vous allez voir directement toutes les équipes dans les studios. Toute la journée, là, on diffuse ça sur la plateforme. Mon nom est Pascal, Pascal CV. Voilà pourquoi ça s'appelle leur CV. On passe une heure ensemble. Côté météo, vous demandez plus de spécifications. Vous demandez si ça va être terminé pour les activités hivernales. Pas nécessairement. Oui, en ce moment, il y a de la pluie, mais ça va geler ce soir et cette nuit. On dit qu'il y a un vigoureux front froid qui va traverser le Québec. Il va y avoir une baisse soudaine de température. C'est attendu un 10 à 15 degrés là, comme baisse de température en quelques heures seulement. Ça va être vraiment glissant. Okay? Ça va être glacé, glissant à la grandeur des trottoirs, des terrains de stationnement, des routes, des surfaces. Il va falloir faire attention parce que c'est toujours à ce moment-là où on a baissé notre garde qu'une fracture de je ne sais pas quoi arrive quand on sort de la maison. Les belles petites bottes de printemps qu'on s'est mis dans les pieds récemment, si vous n'avez pas de crampons dans les prochaines heures, ça va être un petit peu plus complexe ou du moins, il va falloir être très, très, très bon pour garder son équilibre. Je suis vraiment contente de faire cette émission-là aujourd'hui avec vous pour différentes raisons. La première, c'est que j'ai entendu une entrevue que Régis Labombe m'a donnée dans les dernières heures, ça veut dire hier soir. Ça a été diffusé. Et il y a du bonbon là-dedans. Je l'ai découpé pour vous, puis je vais vous la présenter dans l'émission. C'est vraiment, vraiment, vraiment alléchant. Je vous le dis, là, un Régis Labombe qui dit les vraies choses. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est divertissant. Puis il parle d'un peu tout le monde là-dedans, de Geneviève Guilbeault, de Nicolas Daire, Bruno Marchand, Valérie Plante, et même de lui-même. Alors, je vous présente ça, c'est sûr, à l'émission aujourd'hui. Philippe Dubois aussi, puisqu'on est mercredi, on s'en va faire un tour avec notre expert en communication publique et politique de l'ENAP. Il y a beaucoup de sujets avec lui que je veux aborder, entre autres, je ne sais pas si vous avez vu, mais au niveau du gouvernement, on a embauché, en fait, des spécialistes, des coachs pour aider les sous-ministres contractuels, là, à acquérir certaines compétences. Des coachs en politique, est-ce que ça change vraiment la donne? Ça me faisait penser à la déverrouilleuse de charisme engagée par Anne Guérette à plusieurs centaines, voire milliers de dollars dans les années. Peut-être on était en 2016 à ce moment-là, si je ne me trompe pas, 2017, 2018, dans ce coin-là, si ma mémoire ne fait pas défaut. Mais c'est pas important. Mais elle avait caché une déverrouilleuse de charisme. Ça, c'était important. Est-ce que ça change vraiment la donne? Sinon, il y a un petit tour quand même avec le climat politique municipal à faire avec lui. C'est pas seulement à Québec, c'est partout, en fait. On a vu ça à Gatineau, on a vu ça à Lévis. Mais pourquoi? Est-ce que la façon de faire de la politique a changé ou c'est la nouvelle génération qui a... L'épine dorsale moins droite, disons-le comme ça, est-ce que la couenne est plus faible du côté de la jeunesse en politique? Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est ça. Je sais qu'il y en a qui vont déplorer même que ce l'est. On va aller faire un petit tour là-dessus. Puis sur Élections Québec, parce qu'on avait jasé ensemble qu'il y avait la réforme de la loi électorale. On a parlé ensemble avec Philippe des circonscriptions, comment c'était découpé. Mais la loi en particulier, là, ça, c'est une autre consultation. Puis on n'a pas vraiment jasé. On va aller faire un tour avec tout ça. Avec Philippe, sur tout ça, pardon. Je commence l'émission maintenant toujours avec une citation adaptée à notre journée, puis je vais y aller avec celle-ci de Lewis Cass. Les gens peuvent douter de ce que vous dites, mais ils croiront ce que vous faites. Puis ça, je pense qu'il faut se le rappeler. Puis ceux qui croient même pas en ce que vous faites, bien, tassez ça de votre vie. Au yab, le reste, les poubelles, ça sort chaque semaine. Rouge pompier, vendredi à Boulevard 101. Merci d'être là. Ça me touche à chaque fois de vous voir par texto au 418-971-1021 ou encore sur le Twitch. À tout de suite, en fait, on va l'écouter ça. Rouge Pompier, c'est un band là, qui nous sort du nouveau matériel très régulièrement ces temps-ci, qui est fort apprécié par la communauté rock de Québec et de Boulevard. Vous êtes à Boulevard dans l'heure CV. Restez là dans un instant. On parle à Philippe Dubois, professeur en communication publique et politique. Puis ceux qui trippent sur la lutte pourraient être fort gâtés dans les prochains instants.
Pour déjeuner le matin, vous êtes plutôt du genre...
Avec Pascal CV.
Allons, ayons confiance.
Boulevard 102.
L'heure CV avec Pascal CV, c'est vrai, c'est moi. Oui, merci d'être là. Puis je suis jamais seule. J'ai d'excellents collaborateurs avec qui je suis très contente justement de faire des micros. Et vous aussi, avec qui on peut correspondre là, sur Twitch ou encore au 88-971-1021. Parlant de collaborateurs, il y en a un qui va avoir bien des affaires à analyser dans les prochains instants. C'est Philippe Dubois qui est au bout du fil, notre professeur en communication politique et publique à l'ENAP. Salut Philippe.
Hey, bon matin, Pascal.
Bon mercredi. Là, il y a des gens qui disent que ces temps-ci, dans l'actualité, il n'y a pas grand-chose qui se passe, que ça tourne tout le temps autour des mêmes sujets, grands sujets, qu'on parle du climat toxique dans les hôtels de ville, qu'on parle là, de la politique de la CAQ. Mais mis à part ça et la guerre des stupéfiants, je ne peux pas passer à côté, la guerre des stupéfiants dans la capitale nationale, il y a des gens qui trouvent que l'actualité est un peu... en retour de vacances des fêtes, mais en retard. Mais quand on se met à regarder, en fait, des articles, puis ce qui grouille autre que dans les médias, il y en a des dossiers qui se brassent. Je voudrais très rapidement, par contre, parler avec toi, Philippe, des 40 % des sous-ministres qui sont contractuels en ce moment, qui ont affaire et qui ont, en fait, dans leur vie, un coach pour mieux faire la politique, pour peut-être... peaufiner certaines compétences politiques. C'est-tu la première fois qu'on voit ça ou c'est une nouvelle stratégie parce qu'on a manqué de temps pour les former, ces sous-ministres-là?
Bien, dans l'article, on explique que la proportion de ces gens-là qui viennent de l'externe pour occuper un poste de sous-ministre a largement augmenté. Donc, effectivement, il y a plus de gens de l'externe en guillemets, parce qu'il y a aussi des retraités de la fonction publique qui sont réembauchés par la suite.
L'externe, ça, Philippe, c'est des gens hors politique, c'est des gens qui étaient au privé auparavant?
Ça peut être des gens qui étaient au privé, ça peut être des gens qui ont eu une carrière dans la fonction publique, qui ont pris leur retraite et qui sont embauchés, non pas comme employés, mais comme contractuels. Donc, le portrait semble se diversifier d'une fonction qui est stratégique. Peut-être pour expliquer rapidement aux gens, c'est quoi un sous-ministre? C'est pas le poste qu'on voit aux nouvelles tout le temps. Le sous-ministre, c'est vraiment le lien stratégique essentiel entre le ministre d'un ministère et toute l'administration publique du ministère. Donc, il faut comprendre que c'est un poste éminemment stratégique, un poste central pour traduire la volonté politique en politique publique.
Là, tu viens de perdre la moitié des gens avec ta dernière phrase. C'est un poste stratégique pour...
En fait, c'est, tu sais, les élus sont élus pour mettre en place des idées, des programmes, des promesses.
Oui.
Et l'administration publique, elle existe pour mettre en œuvre cette direction-là politique.
Le
sous-ministre fait la traduction entre ce que les élus veulent pour que ça devienne des actions de l'État.
Exemple, la personne qui était sous-ministre sous le contrat de la SAQ CLIC avec Éric Kerr.
Dans ce cas-là, le SAQ CLIC, là, c'est, on ouvre un dossier, mais si on prend, mettons, un exemple très banal, là, un ministre veut construire un hôpital, il s'est fait élire en disant « je vais construire un hôpital dans telle ville », mais pour que cette promesse-là devienne véritablement un hôpital concret dans la vraie vie, bien, ça prend un lien entre le ministre, l'élu et toute la fonction publique qui vont réaliser ce que l'élu a promis. Puis le sous-ministre, c'est un peu l'engrenage entre la sphère politique partisane puis le quotidien, le plancher des vaches, oui. Les gens qui vont véritablement embaucher des gens pour construire un hôpital.
Puis pourquoi faudrait leur payer des coachs à ces gens-là? C'est plutôt pour le politique ou pour le terrain?
Bien, c'est des gens qui sont extrêmement sous pression parce qu'ils doivent d'abord avoir une fine connaissance du fonctionnement de l'État. Gérer l'État, gouverner l'État, c'est éminemment plus compliqué que gérer dans le contexte privé pour plein de raisons, notamment pour la reddition de comptes, notamment parce qu'il y a des façons de faire les choses puis parce que le système est complexe. Donc, probablement que dans ce cas-ci, de ce que je comprends de l'article, c'est qu'on veut s'assurer que ces gens-là aient une très bonne connaissance de l'État pour pouvoir agir efficacement. Parce que sinon, si on essaie de gérer avec des réflexes, avec des visions qui ne sont pas adaptées à l'organisation, bien, clairement, on n'est pas aussi efficace que ce qu'on devrait l'être.
On parlait dans l'article des salaires aussi, là, comme quoi au ministère de la Santé, c'est là où les salaires sont mirobolants, là, qu'on retrouve le plus grand nombre de hauts fonctionnaires qui proviennent de l'externe. Contrat du grand patron des sous-ministres, il s'appelle Daniel Paris, ce gars-là. Ça lui permet de toucher avec son contrat 318 000 $ par année. On dit que c'est un traitement annuel qui est majoré chaque année, là, donc augmentation aussi pour les cadres de la fonction publique. Et on dit que sous sa gouverne, il y a 9 des 14 sous-ministres adjoints ou associés du ministère de la Santé qui sont aussi contractuels. Puis on parle entre autres du cas d'Horacio Arruda, là, qu'on a vu beaucoup, beaucoup en pandémie, qui lui bénéficie d'une rémunération annuelle de 330 000 $ du directeur national de la santé publique. Ça, c'est Luc Boileau. On le connaît aussi. On a vu cet homme-là beaucoup. 337 000 $ pour cet homme-là. Ou du sous-ministre adjoint, Stéphane Bergeron, 375 000 $ Donc, le sous-ministre adjoint est plus payé qu'Horacio Arruda et que Luc Boileau au total, tu sais.
Oui, puis beaucoup plus que les élus aussi. Hein, t'sais, on critique beaucoup le salaire des élus, mais quand on compare avec leurs sous-ministres, les élus gagnent un salaire moins élevé. Je voudrais pas, puis là, c'est le prof à l'ENAP qui parle,
oui?
Je voudrais pas que ces salaires-là ou que ces données-là jettent de l'ombre sur l'importance de ce qu'ils font. Parce qu'on peut questionner le salaire. Ça, c'est sain d'en débattre en société, de dire comment devraient gagner nos fonctionnaires. Mais au-delà de ce débat-là, faut garder en tête que tu sois haut fonctionnaire, que tu sois dans une administration publique quelconque, un poste de gestionnaire ou quoi que ce soit, ces gens-là ont quand même la responsabilité de gérer l'ensemble de l'État québécois. Puis l'État québécois, c'est complexe et c'est aussi très concret dans la vie des gens. Mm-hmm. Et les gens ont des attentes de plus en plus élevées envers l'État. Donc, je dis pas qu'ils méritent ou qu'ils méritent pas leur salaire, mais je voudrais pas qu'on fasse uniquement un débat de salaire puis qu'on oublie que ce que ces gens-là font dans la vie, ça a quand même des conséquences très concrètes dans les nôtres.
Et à travers le temps aussi, même si leur position peut être éphémère, en fait, dans leur propre vie personnelle et dans nos vies à nous, les impacts de leur travail, eux, vont perdurer. Donc, c'est ça. On a engagé des coachs pour aider ces gens-là, ces sous-ministres-là. Pour près de 40 % des sous-ministres, on a des coachs pour les aider dans leurs fonctions, les orienter. Est-ce qu'on est en train de déplorer cette façon de faire-là? Bien, beaucoup moins que la déverrouilleuse de charisme qu'Anne Guérette avait embauchée il y a plusieurs années au municipal ici à Québec. Ça, Philippe, je veux dire, c'est encore pour moi quelque chose que je ne saisis pas. Parce que c'était des centaines et même voire des milliers de dollars qui avaient été dépensés pour ça avec l'argent des contribuables pour aller déverrouiller le charisme d'Anne Guérette. Ça me fait encore rire, mais en même temps, ça me fait un pincement au cœur.
Moi, je pense que cet exemple-là, parmi beaucoup d'autres, nous montre à quel point il y a un marché de la consultance actuellement. Quelqu'un qui veut faire de l'argent actuellement fait de la consultance externe. C'est relativement facile de se starter un cabinet de consultant, de se starter à notre compte, puis de vendre des solutions que l'on présente comme étant magiques ou comme étant utiles.
Avec études ou pas? T'sais, avec un diplôme qui le permet?
C'est ça, Pascal. C'est qu'il y a des excellents consultants qui ont un impact structurant dans les organisations, qui ont des approches qui ont été validées scientifiquement, qui ont été prouvées par la pratique. Puis il y en a d'autres qui vont de leur feeling puis de leur propre expérience personnelle. Puis il faut, lorsqu'on embauche un consultant, que ce soit dans le privé que dans le public, là, parce que les consultants dans le domaine privé sont aussi omniprésents, mais il faut toujours garder en tête qu'il faut sélectionner la bonne solution en fonction de nos problèmes, en fonction de nos objectifs. Puis il faut aller gratter un peu. C'est quoi la méthodologie derrière tout ça? T'sais, est-ce qu'on nous vend de l'opinion puis du vent, ou si on nous vend vraiment un service, un accompagnement qui va avoir un impact en fonction de nos propres objectifs?
Oui, mais ça, c'est pertinent. Mais je me souviens, Philippe, d'avoir parlé avec une... Je pense que son titre, c'était une coach industrielle il y a plusieurs années avant la pandémie. Je trouvais ça fascinant parce que c'est des... Bon, grands gestionnaires d'entreprises ou des propriétaires d'entreprises qui engageaient ce genre de consultants-là. Et en fait, c'était le pont entre les employés et le gestionnaire, parce que le gestionnaire n'avait pas le temps de faire des recaps très fréquents avec les employés. Mais parfois, cette personne-là qui avait étudié aussi en psychologie s'assoyait avec les one-on-one avec les employés et disait, bon, toi, c'est quoi tes ambitions au sein de l'entreprise ou dans ta propre carrière? Est-ce que tu es capable d'y arriver avec ta vie personnelle? Et suite à quoi aussi, est-ce que ton gestionnaire, ton patron te donne tous les outils pour y accéder ou tu te sens un peu mise de côté? Quelles sont tes tâches ces jours-ci en tant qu'employé? As-tu besoin qu'on oriente? Qu'est-ce qui est une priorité? As-tu besoin de mon... J'avais trouvé ça tellement pertinent. Puis ensuite, la coach, coach, la consultante, qui était plutôt industrielle. Puis ce qu'on voit quand même en montée là, d'emplois, là, il y a beaucoup de propriétaires gestionnaires qui ont envie d'avoir ce genre de truc-là, qui ressemble un peu à finalement ce que la politique a employé. Mais faisait la même chose avec l'employeur, et il y avait un devoir de confidentialité aussi dans ce qui avait été fait comme confidence des employés, ce qui est peut-être un peu difficile au niveau de la confiance pour les employés, mais avec le temps, ça se faisait. Puis autant les gestionnaires que les employés avaient adoré cette façon de faire-là, parce qu'ils se sentaient moins oubliés, mettons, dans leur tâches au quotidien ou dans leur rôle. Puis elle s'assurait de faire les suivis avec l'employeur pour justement que la structure soit meilleure. Je pense qu'on ne peut pas être contre la vertu quand ça fonctionne bien non plus.
Bien, tout à fait. Puis je pense que ce que tu viens de montrer comme exemple, c'est que quand c'est bien fait, puis quand c'est fait avec rigueur puis sérieux, un regard externe, ça ne peut jamais être mauvais. Mm-hmm. Mais il faut être aussi conscient que ce regard externe-là, il faut être en mesure de juger s'il est pertinent et s'il est bien fait. Puis souvent, ça, c'est une porte entrouverte que d'autres essaient de prendre pour vendre des trucs qui, au final, ne sont pas adaptés aux besoins de l'organisation, qu'elles soient privées ou publiques.
Un genre de Clotaire Rapaille, bon, sur ça.
Un genre de Clotaire Rapaille.
Un genre de Clotaire Rapaille, wow. On en reparlera de ça dans quelques instants. le climat en politique municipale, Phil, je peux pas te laisser partir sans ça. Je sais que tu as travaillé au municipal pendant de nombreuses années. Ce que tu vois entre les murs de l'Hôtel de Ville de Québec, de Lévis, ce que tu vois comme la mairesse de Gatineau qui démissionne. Ça a-tu toujours eu lieu ou c'est un changement de paradigme concret entre les vieux de la veille qui font de la politique peut-être plus émotive, du tac au tac, puis ceux qui le font à la génération actuelle, un peu plus doux, on respecte tout le monde, on s'en va pas dans des envolées lyriques impétueux. Comment tu analyses ça, ce qui se passe?
Bien, moi, je trouve ça intéressant dans la mesure où ça traduit à quel point ces gens-là ont relativement peu de moyens et d'accompagnement pour faire un travail qui est très important. T'sais, gérer une ville, là, c'est très concret. Si tu te trompes, les gens vont le savoir rapidement parce qu'ils vont le vivre rapidement. Tu es sous pression, tu es tout le temps au travail parce que quand tu vas à l'épicerie, les gens se disent pas « Ah, c'est un monsieur qui fait l'épicerie, c'est ah, c'est le conseiller, ah, c'est la mairesse, machin. » Donc, les conditions sont difficiles. Puis, il y a une transformation de la scène municipale, puis tu as raison de dire qu'il y a une nouvelle génération en puissance qui monte, qui ont des façons de faire différentes, qui ont une vision des choses différentes, puis parfois, ça peut clasher, en bon français, avec l'institution qui est faite pour fonctionner d'une certaine façon, puis c'est là que le bas blesse. Je pense que c'est intéressant d'avoir le débat. Puis là, on ne rentre pas dans les cas personnels, là, mais en général, d'avoir un débat, une réflexion sur, hey, est-ce que nos élus municipaux ont des bonnes conditions pour faire leur travail? Est-ce qu'ils peuvent faire leur travail comme ils voudraient le faire? Puis sinon, ben, il faut s'asseoir et dire comment on peut rendre l'expérience plus agréable pour les gens qui ont mis leur face sur le poteau puis qui ont eu le goût d'être élus, puis comment on peut s'assurer que les citoyens en aient davantage pour leur argent puis davantage en fonction de leur vision de ce qu'ils veulent comme ville. Puis ça, c'est pas une mince affaire, mais je trouve ça bien qu'on en parle puis je trouve ça bien qu'on ait un débat d'idées là-dessus.
Sauf qu'on n'avancera pas nécessairement dans les prochaines semaines par rapport à ça, même si on en parle. J'ai l'impression que ça va se faire sur plusieurs années. Est-ce que je me trompe?
Non, tu as raison. Je veux dire, on change pas la façon qu'une organisation fonctionne du jour au lendemain. On peut dire qu'on essaie de le faire, mais pour avoir des impacts structurants, la première étape, c'est d'en débattre, puis que ça s'inscrive à l'agenda public, puis ça va évoluer lentement, mais c'est pas parce que c'est long que c'est mauvais, parce que, encore une fois, dans le public, on peut pas se tromper, on peut pas remettre la porte en avant dans le tube. Donc, il faut prendre le temps de bien faire les choses, mais le fait de soulever l'enjeu, puis le fait qu'on en parle autant depuis des semaines, moi, je vois ça comme quelque chose de positif.
Parfait. Puis peut-être aussi d'aller voir les comportements qui ont débordé, les punir s'il y a à avoir réglementation ou encore renvoi ou encore, bon, toi, on t'envoie à la maison, on va décompresser, pense à tes actions puis tu reviendras en politique par la suite ou encore un ajustement. Ça, il faut un certain leadership aussi. Puis on a quand même critiqué le leadership de certains élus, maires aussi, par rapport aux situations dans les derniers jours. Philippe, Élections Québec qui consulte actuellement la population. Un peu comme on a fait avec le troisième lien, là, la consultation de la mobilisation et du transport ici à Québec. Là, on a parlé en masse hier, puis on l'a analysé de fond en comble, mais il y a encore une consultation publique en ce moment. Cette fois-ci, c'est sur la réforme de la loi électorale. On avait jasé ensemble des circonscriptions, là, comment c'était découpé, qu'est-ce qu'on souhaite faire avec ça. Mais la loi en particulier, là, est-ce qu'elle va changer grâce à cette consultation-là? Et qu'est-ce qu'on souhaite changer initialement?
Ça va être la partie de la chronique, quelque chose qui se passe que personne ne sait, mais qu'on devrait savoir.
C'est vrai qu'on peut-être qu'il y a 10 personnes qui se sont dit « Hop là, où c'est qu'on s'en va avec ça? »
Exactement, puis c'est normal, là, je veux dire, c'est entièrement normal, mais c'est important de savoir. La loi électorale, là, c'est les règlements qu'on s'est donnés collectivement pour organiser nos élections. Qui peut y participer? Comment on vote? Comment on finance les campagnes? Ça couvre tout ce qui a attrait à l'organisation d'élections en général. Actuellement, Élections Québec, qui est l'organisation indépendante et neutre qui organise les élections au Québec, autant municipales que québécoises, mais là, on parle des élections québécoises, est en réflexion pour savoir est-ce qu'il faut adapter notre loi électorale. Parce que notre loi électorale, elle a 35 ans. La loi électorale, elle est plus vieille que moi. Donc, ça fait quand même un bout que ça a été adopté. Et là, Élections Québec nous dit, bien, nous, on est prêts à faire des recommandations aux élus, mais on veut avoir l'opinion des gens. Dites-nous ce que vous jugez important. Est-ce que vous pensez que vous avez assez d'occasion d'aller voter? Est-ce que vous pensez qu'on devrait revoir les règles de financement? Pas besoin d'avoir une opinion sur tout, mais c'est important de savoir qu'on peut donner notre opinion, qu'on peut dire à Élections Québec, écoute, moi, je pense que telle modification, qu'elle soit petite ou grande, aura un impact sur moi, ma capacité de faire un meilleur choix, ou moi, ma capacité d'aller voter. Puis si ça vous intéresse, bien, vous vous rendez sur le site d'Élections Québec, vous allez trouver l'ensemble des informations. Vous pouvez, les plus crinqués, envoyer un mémoire, mais vous pouvez aussi répondre à des petits questionnaires thématiques qui vont donner un feedback intéressant à Élections Québec.
Et qu'est-ce que ça va changer dans la vie des gens au final, là, cette réforme de la loi?
Bien, on n'a pas les conséquences avant d'avoir le projet de réforme, mais par exemple, ça pourrait être d'avoir plus ou moins d'opportunités d'aller voter. Il y a des gens qui disent, bien, moi, je trouve ça facile d'aller voter. Il y a des gens qui disent, bien, moi, si on pouvait voter par Internet, par exemple, ça ferait mon affaire. Ça, c'est un exemple concret. Il peut y avoir des questionnements plus grands, comme est-ce qu'on pense que faire des dons aux partis politiques, c'est encore pertinent en 2024. Mmh. Donc, il y a une variété de sujets qui vont avoir des petits impacts sectoriels sur pas toute la population, mais sur certaines personnes. Et cet exercice-là est intéressant parce qu'on veut impliquer les citoyens dans le processus. On ne fait pas quelque chose en leur disant « voici ce qu'on a décidé ». On veut savoir ce que les gens en pensent. Puis s'ils n'en pensent rien, bien, on veut le savoir aussi.
Oui, ça serait un peu inquiétant, par exemple. Je comprends les gens qui ne vont pas se masser sur, justement, cette consultation publique-là. Mais si on n'en a rien à faire, là, on a quelque chose à voir en société pour la suite des choses, surtout dans un contexte géopolitique comme on le connaît à travers le monde, puis à travers même notre grand pays qui est le Canada. Merci beaucoup, Philippe Dubois, professeur à l'ENAP en communication publique et politique. On se reparle la semaine prochaine, pardon.
Toujours un plaisir, Pascal.
Salut, bonne journée. Il est vraiment intéressant, ce Philippe-là. Il peut parler d'à peu près tout. Si jamais vous avez une envie particulière, vous pouvez toujours m'écrire par Twitch au 418-971-1021 là-dessus. Merci pour vos commentaires durant la chronique. Je vais aller vous lire dans les prochains instants. Le temps d'écouter les Cowboys fringants avec « Tant qu'on aura de l'amour », une des plus belles, en fait, des Cowboys. Puis on est bien content de continuer de tourner ce band-là. Je pense que c'est une année pour le faire. Ils nous ont émus, ils nous ont fait du bien. Le moment marquant sur les plaines sera aggravé à jamais dans notre mémoire. Boulevard 102.1, ben c'est tant qu'il y aura de l'amour à leur CV.
Avec Pascal CV.
Depuis qu'il est parti de la politique, il fait, je ne sais pas si je peux dire, encore plus réagir qu'il faisait réagir. Chose certaine, il n'avait pas la langue dans sa poche et il l'a encore moins maintenant. Elle est bien en place, peu importe le plateau de télévision dans lequel il passe, peu importe dans quelle émission il passe aussi. Régis Labeaume reste celui qui clame haut et fort tout ce qu'il pense depuis qu'il a quitté la politique. Il le faisait, on se rappelle, il le faisait très, très bien pour avoir couvert le municipal pendant plusieurs années. C'était une façon très décomplexée de faire de la politique à la fin, peut-être même un peu arrogante. C'était ma perception et celle de bien des gens. C'était difficile, pour vrai, à la fin, faire notre travail de journaliste avec Régis Labeaume. Faut pas oublier ça, parce que des fois, quand on perd quelqu'un, ben on... On pense juste aux choses positives hein, qui venaient avec, puis c'est pas toujours le cas. Je sais, là, quand on compare, on se console parfois. Je sais que Régis Labeaume est très, très apprécié en ce moment côté attitude, côté personnage à Montréal. Puis on avait des questionnements des fois ici à Marceau le midi sur l'heure du lunch à Boulevard 101, à savoir, pourrait-il se faire élire du côté de Montréal avec le temps? Pour sa personnalité, pour ce qu'il est. Et encore, est-ce qu'il pourrait se faire élire à nouveau, peut-être dans un autre palier politique, dans la région de Québec, suite aux échecs, aux difficultés, défis que rencontre Bruno Marchand dans l'opinion populaire en ce moment? Est-ce qu'on retournerait avec notre ex? C'est un peu ça la question. Parce que ben, notre nouveau chum n'est pas aussi le fun qu'on pensait. Ou encore, on a des critiques. Ou encore, on l'apprécie. Ça dépend des gens. Je sais par texto, il y en a qui apprécient Bruno Marchand, qui l'écrivent régulièrement aussi, qui détestent Régis Labeaume, qui apprécient Régis Labeaume, puis qui détestent Bruno Marchand. C'est comme ça, puis c'est la politique, ça vient avec. Je vous parle de Régis Labeaume aujourd'hui parce qu'il est allé à l'émission « Je viens vers toi », l'émission de nul autre que Marc Labrèche. Un show, un talk show où on invite toujours un invité ou une invitée qui est un peu la star de la soirée, mais avec des panélistes, donc des complices durant cette émission-là. C'est à nouveau, ça dure environ 40 minutes. Marc Labrèche se débrouille très bien, fait du grand Marc Labrèche. Puis hier, c'était Patrick Lagacé, l'invité principal. Mais autour de la table, il y avait Régis Labeaume. Et il en a dit des affaires, c'est vidé le cœur. C'est un peu humoristique, mais lui, je pense qu'il n'était pas dans l'humour, Régis Labeaume, hier. J'ai trouvé ça très croustillant. Il te parle de Geneviève Guilbeault, de Denis Coderre, de Bruno Marchand, de Valérie Plante et aussi de son acharnement ou pas en politique. Une question que Marc Labrèche lui a posée.
Mais est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière politique vraiment où tu t'es acharné sur un projet quelconque, tellement que l'entourage disait « Bon, là, M. le maire, c'est beau, faut lâcher prise. »
Je dirais que j'ai fait deux jours de trou avec la terre à pêche.
C'est ça?
Oui!
J'allais
oui.
te dire! Deux jours terre, de trou! J'allais te dire, mais je me disais peut-être que ça va le blesser.
Non, j'assume, mais c'est toujours difficile.
Ah oui, c'est sûr.
Geneviève Guilbeault, pardon. Élise Guilbeault, la comédienne qui est à ses côtés puis qui dit « Je voulais pas te blesser, Régis, mais Clotaire Rappaille a même marqué Montréal. » Là, on s'en va dans le vif du sujet. Ce matin, en entrevue, les gars de Rage Against le matin avec Geneviève Guilbeault, entrevue très intéressante à la Rage Against le matin. Mais hier, il a été question aussi de Geneviève Guilbeault pour Régis Labeaume. Et on se demande des fois si elle est appréciée ou non en politique. On l'a vu très, très près de François Legault pendant de nombreux mois, même années, je dirais. Ça semblait être sa dauphine, ça semblait être son cheval de bataille pour la suite, pour peut-être être première ministre du Québec un jour, ou du moins être à la tête de la coalition Avenir Québec. Ça semble s'essouffler. Pour des raisons que vous pouvez discuter sur Twitch ensemble pendant l'émission, ou encore au 418-971-1021. Est-ce que vous la portez dans votre cœur d'électeur, Geneviève Guilbeault? C'est un peu ce que je vous demande en ce moment. Pour Régis Labeaume, la réponse est extrêmement franche.
Si tu étais Geneviève Guilbeault, est-ce que tu croirais vraiment tes chances de devenir premier ministre du Québec un jour?
De moins en moins avec la semaine qu'elle a eue.
OK, mais ça, mettons ça à part. Est-ce que c'est une personne qui a le charisme nécessaire, selon toi, et la vision générale, selon toi, pour devenir premier ministre?
Le problème, c'est parce que je ne l'aime pas, moi.
Ah oui, hein?
C'est ça.
Tu peux pas mentir, tu sais.
Ben non, c'est ça, t'es là pour dire la vérité.
Mais elle a beaucoup de qualités.
Oui.
C'est personnel?
Oui, ben c'est parce qu'on a travaillé ensemble, c'est un grand mot. On a eu des...
Des échanges?
Oui, c'est ça.
Vous avez eu des échanges?
Oui, c'est ça, ça a mal fini.
Il n'y a jamais eu un moment...
Mais je pense qu'elle a objectivement des qualités.
Oui.
Il ne reste plus rien qu'à se trouver des convictions, elle devrait être correcte.
OK! D'accord. On continue.
C'est gros quand même, là. Il reste à Geneviève Guilbeault à se trouver des convictions. Hey, c'est du gros ménage entre deux personnes sans réplique de Geneviève Guilbeault par Régis Labeaume. Je ne pense pas qu'elle va aller commenter tout ça ou répondre à la question, mais si un journaliste qui la croise dans les prochaines heures ou prochains jours, moi, je parlerai de ce commentaire-là que Régis Labeaume a eu envers Geneviève Guilbeault. Donc, il fait quand même une différence entre la personne politique puis la personne au personnel, mais il lui manque à se trouver des convictions. C'est quand même très strident comme déclaration à faire sur un plateau de télévision. Puis il était très sérieux, il n'était pas dans l'humour à ce moment-là, Régis Labeaume. Bon, une autre question qu'on lui a posée, qui s'en va un peu coltailler Denis Coderre, ex-maire de Montréal, qui peut-être souhaite accéder, s'il le peut, à la chefferie du Parti libéral du Québec.
Si tu étais Denis Coderre, Que répliquerais-tu à Régis Labeaume qui t'a traité de vieux chausson?
Ben, moi, j'aurais dû... Je me suis trompé avec les chaussons. J'aurais dû lui dire « Get the f*** life », là, tu sais. Ouais.
OK. C'est clair dans la réponse, mais je vais reposer la question. D'après toi, il n'y a pas de pertinence à son retour en politique. Tu penses pas qu'il peut arriver avec quelque chose de nouveau?
Ben, écoute, si Denis Coderre avait une idée révolutionnaire, ça serait.
Mais il me semble que vous entendiez bien, vous dites.
Oui!
Ben, ça, c'est le gros problème qu'on a eu. On s'est connus il y a 10 ans.
Ouais.
C'était un chum politique pendant 3 ans. Puis ça fait 7 ans qu'on se parle pas. Ça vous donne-tu une idée?
Okay. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, écoute, on s'entendait plus vers la fin, puis de toute façon, on se parlait plus, mais je le déteste pas.
Non, c'est clair.
Je trouve la réplique à Marc Labrèche excellente à la fin. Non, c'est clair, t'as pas l'air de le détester, pas du tout. C'est vraiment... comment dire, questionnable, parce que dans chacune des réponses de Régis Labeaume, il y a un réfifi avec la personne au sens politique. Et à chaque moment que ça arrive, ça, moi, je me dis, OK, si cette personne-là est en conflit avec autant d'autres personnes, est-ce sa faute? Ou du moins, est-ce que la personne est capable de mettre sur la table ses fautes? Parce qu'à un moment donné, je veux dire, on parle de Denis Coderre, Geneviève Guilbeault, le maire de Lévis, Gilles Laulier, ça n'a pas été son allié très longtemps non plus. Et vers la fin de sa carrière, ben, ça ne se parlait plus, ces deux hommes-là. Ça a été difficile à la fin aussi pour Régis Labeaume avec bien d'autres acteurs au niveau politique. Est-ce lui le problème ou est-ce toute la classe politique, finalement, qui a de la misère à en faire de la politique respectueuse ou encore, en collaboration, même si les idéaux puis les valeurs politiques divergent? C'est un peu ce que je me demande, et peut-être que vous demandez la même chose, mais Régis Labeaume continue de parler sur le plateau de « Je viens vers toi », émission de Marc Labrèche hier soir. Et cette fois-ci, Paul Lièvre, Bruno Marchand et Valérie Plante dans le même segment.
Si tu étais Valérie Plante ou Bruno Marchand, comment réagirais-tu devant Pierre Paul Lièvre qui te traite d'incompétent?
Ben écoute, on cherche toujours quelle a été son œuvre, M. Poilievre, et quels sont ses attributs. Alors, je poserai ces questions-là, moi. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie pour être si...
Avoir une conscience si la science infuse de savoir...
Ouais, c'est ça, oui.
Ça a été un moment extraordinaire sur les ondes télévisuelles hier. Quand on parle que la télé généraliste traditionnelle peut mourir, si on a des affaires comme ça, elle ne va pas mourir de sitôt. Quelle a été votre réponse favorite et pourquoi? 418-971-1021. Et pourquoi je vous demande ça? C'est que parmi ceux qui répondront, je vais faire gagner une paire de billets pour aller à la All Elite Wrestling. Oui, c'est un show de lutte. C'est des lutteurs. Un peu comme ce qu'on a entendu finalement sur le plateau de « Je viens vers toi ». Régis Labeaume m'en faisait de la lutte avec d'autres acteurs politiques. Vous allez le 27 mars prochain au Centre Vidéotron sur le bras de Boulevard 101 pour aller voir les lutteurs de Dynamite et Rampage s'affronter. Chris Jericho, Kenny Omega, les Young Bucks, Hangman Page et plusieurs autres. Puis il y aura certainement l'assassin aérien Will Ospreay qui sera là pour la toute première fois, en fait, au Centre Vidéotron. Et on vous y envoie. Sinon, ben, si vous ne gagnez pas, gestev.com, ticketmaster.ca, c'est nos partenaires dans cet événement-là. Ça a été quoi votre réponse cinglante la plus appréciée de Régis Labeaume ou encore la plus drôle et pourquoi? 418-971-1021. Bonne chance à tous. Watatata de Slater and Fils à Boulevard 101. On revient.
It's time! Leur CV avec Pascal CV.
C'est presque une unanimité parmi les réponses de Régis Labeaume sur le plateau de Marc Labrèche hier soir. Je vous demandais laquelle était votre favorite. Et je ne sais pas si vous avez deviné entre celle sur Denis Coderre, entre celle sur son acharnement où on fait un clin d'œil à Clotaire Rapaille, entre celle sur Poilievre ou encore Bruno Marchand ou Valérie Plante. C'est celle de Geneviève Guilbeault qui, parmi tout l'auditoire de leur CV de Boulevard 102.1, remporte la palme de la meilleure réponse qu'on a donnée à Marc Labrèche hier par Régis Labeaume. Et pour ce faire, on s'en va la réécouter.
Si tu étais Geneviève Guilbeault, est-ce que tu croirais vraiment tes chances de devenir premier ministre du Québec un jour?
De moins en moins avec la semaine qu'elle a eue.
OK, mais ça, mettons ça à part. Est-ce que c'est une personne qui a le charisme nécessaire, selon toi, et la vision générale, selon toi, pour devenir premier ministre?
T'as un problème, c'est parce que je l'aime pas, moi.
Ah oui, hein?
C'est ça.
peux pas mentir, tu sais.
Ben non, c'est ça, t'es là pour dire la vérité.
Mais elle a beaucoup de qualités.
Oui.
C'est personnel?
Oui, ben, c'est parce qu'on a travaillé ensemble, c'est un grand mot. On a eu des...
Des échanges?
Oui, c'est ça.
Vous avez eu des échanges?
Oui, c'est ça, ça a mal fini.
Il n'y a jamais eu un moment...
Mais je pense qu'elle a objectivement des qualités.
Oui.
Il ne reste plus rien qu'à se trouver des convictions. Ben, elle devrait être correcte, là,
OK! D'accord. On continue.
Je trouve ça tellement strident, mais en même temps, hilarant. Ça mérite d'être faxé sur un sens très, 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 très rapide. Vous avez beaucoup commenté là-dessus. Entre autres, on nous dit Régis ne parle plus à personne, mais il parle de tout le monde. C'est ça le problème. Il y a quelqu'un qui dit qu'il déménage donc à Montréal parmi les artistes. Il le trouve très drôle. Moi, j'ai de la misère à le voir et à l'entendre suite à la finale de son mandat politique. Quelqu'un qui dit celle avec Denis Coderre, parce que c'est tellement gratuit envers Coderre, mais il est capable aussi d'être méchant comme ça. Donc, ça lui revient comme un boomerang. Oh! Oh, vos commentaires sont assez tranchants aussi. Quelqu'un qui dit « Moi, je trouve que c'est saignant les réponses de Régis Labeaume. Je trouve ça très, très drôle. C'est spectaculaire. Puis je ne l'aimais plus aux politiques, mais je l'aime comme commentateur comme ça sur des plateaux ou encore de l'actualité. » Quelqu'un qui dit « Moi, j'ai tellement aimé celle à la ministre Guilbeault, la réponse. Quand il a dit qu'il ne l'aimait pas, ça semble très honnête. » Quelqu'un d'autre « Im, mon Dieu! Quand Labeaume dit que c'est pas Guilbeault sa favorite, c'est très, très drôle. » Puis c'est pas des choses qu'on voyait nécessairement lorsqu'ils avaient à parler ensemble. Mais je vous dirais que oui, à la fin quand même du mandat de Régis Labeaume, on sentait que Geneviève Guilbeault et lui, ça ne faisait plus. Bien qu'au début, ça semblait aussi être sa grande amie, puis qui allait travailler sur tout ce qui était réseau de transport et structuration de Québec avec elle. Je pense qu'ils ont eu un rififi sur certaines visions. Puis à partir de ce moment-là, ça s'est gâché. Quelqu'un qui dit « J'ai aimé sa franchise sur Geneviève Guilbeault. On a le droit de ne pas aimer quelqu'un dans la vie et il n'a pas été gêné de le dire à la télé. » Quelqu'un qui dit « Ça doit faire mal si on parle de toi et que tu entends ça sur un plateau télé. » Oui, ça, je trouve ça fascinant. Puis un des invités, c'était Patrick Lagacé. Patrick Lagacé, je dis son nom en ce moment, puis j'ai l'impression que c'est noir ou blanc. Beaucoup de gens l'aiment, puis d'autres le détestent. Je cherche sinon un auditeur, une auditrice qui est dans la fameuse zone grise là, par rapport à lui, parce que quand tu fais du commentaire, ça vient avec. Donc, il y avait ce débat entre Patrick Lagacé, qui est plutôt journaliste, commentateur, animateur, et Élise Guilbeault, qui est plutôt comédienne, artiste, et Marc Labrèche. Puis Marc Labrèche se confie rarement sur sa vie personnelle. Là, il s'est confié, puis il a dit « Moi, ça m'a pris des années à faire avec la critique. » La critique constructive, ça a été plus facile, mais la critique juste négative et méchante, il dit, avant de me faire une protection, ça a pris du temps. Et c'est là où Patrick Lagacé arrive en disant, ben moi aussi, ça m'a pris du temps. Mais à un moment donné, je pense que c'est plus facile pour nous, commentateurs, journalistes et autres, de faire cette barrière-là entre l'opinion du public ou encore la critique du public qui est simplement juste négative et toxique, parce que c'est ton travail, finalement, qu'on juge et non ta personne. Et pour vous, peut-être, artiste, c'est plus difficile parce que vous mettez votre cœur, vos émotions, vos sentiments, vous êtes vous-même particulièrement, on vous demande d'être vous-même dans le commentaire et non nécessairement de parler d'enjeux ou encore d'exposer une critique, vous aussi, tu sais. Puis Patrick Lagacé disait, moi, je veux des gens qui ne sont pas en accord avec moi dans la majorité du temps, là. C'est pour me faire évoluer. Ça a été vraiment une très bonne discussion. C'est la première fois que je tombais sur cette émission-là, mais ça a été très, très, très bon. L'écouter, je vous la conseille, en fait, si jamais ça vous intéresse. Il y a des gens qui reviennent sur le livre d'insultes que je vous ai présenté en ondes hier. Un livre d'insultes qui avait été publié en 2011, qui maintenant est introuvable un peu partout parce que ça dépasse les bornes littéralement. On dit que c'est de l'humour, mais c'est séparé par pages pour insulter des personnes en surplus de poids ou des personnes anorexiques ou des blondes ou un homme qui travaille dans un certain secteur, puis c'est ravageur. Je vous le dirais que le titre « Insulte et injure » pour avoir le dernier mot, c'est pas pour rien qu'on a trouvé ce titre-là. Continuez de participer en passant au concours pour gagner votre paire de billets pour aller à la Hall Elite Wrestling, la lutte au Centre Vidéotron le 27 mars prochain. On revenait sur la clip de Geneviève Guilbeault, la réponse de Régis Labeaume sur Geneviève Guilbeault dans l'émission de Marc Labrèche, Je viens vers toi. Pour cette raison-là, je vous avais demandé c'était quelle réponse que vous avez préférée dans celle que je vous ai présentée. Le show avance rapidement. Je dois finir l'émission avec des nouvelles importantes là, au courant des dernières heures, entre autres pour la guerre des stupéfiants ici dans la ville de Québec, dans la capitale nationale. Il y a eu une 23e arrêt arrestation qui a été faite, c'est un homme de 41 ans qui a été arrêté pour tentative de meurtre et séquestration ici à Québec. Pas rien quand même. On a procédé du côté des policiers à cette arrestation dans le cadre de cette guerre de stupéfiants. Ça a déjà fait un mort jusqu'à maintenant et plusieurs blessés sur l'ensemble du territoire. 41 ans pour l'homme, comme je vous disais, il devrait comparaître aujourd'hui au Palais de justice de Québec. C'est ce que nous annoncent plusieurs médias. 23e arrestation, c'est pas rien. On est dans une frappe importante, frappe policière, surtout sur le gang criminalisé de Dave Pick Turmel. Et oui, les Hells Angels, mais vraiment, là, on a focusé sur le gang criminalisé de Dave Pick Turmel qui, selon les observateurs, les journalistes, les policiers n'ont absolument rien à perdre. Ils sont dans une très, très grande violence. Là. Il n'y a rien qui les arrête. Il y a d'autres arrestations qui sont à prévoir dans les prochains jours. On a décidé de faire une grande, grande frappe de ce côté-là. Climat toxique dans les hôtels de ville, finalement, en politique en général. Québec a annoncé 2 millions de dollars pour l'aide psychologique aux élus municipaux. C'est sorti dans les dernières heures. C'est quand même rapide suite à ce qu'on a entendu, rapide après le départ d'André Laforêt. Pardon, ce n'est pas le départ d'André Laforêt, ça c'est la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qui a annoncé justement cette bonification au plan d'action pour aider justement au respect, à la civilité en politique. Ça avait été lancé, ce projet-là, en 2021, mais on est revenu avec cette aide de 2 millions de dollars supplémentaires. Mais c'est la mairesse de Gatineau dont je voulais vous parler qui a démissionné récemment, vu justement la difficulté pour sa santé mentale d'être mairesse et d'être toujours frappée par la critique, les insultes et même psychologiquement là, la violence psychologique. Donc, on a décidé de déployer une aide pour les élus municipaux. Mais comment on va le voir, en fait, directement sur le terrain? C'est la question que je me demande parce que c'est pas nécessairement développé dans les articles ou encore dans l'annonce. Puis on a vu, justement, des enveloppes budgétaires être déposées par le gouvernement à travers les dernières années suite à la pandémie puis à la demande montante. Puis félicitations en passant pour ceux qui font ces demandes-là pour l'aide psychologique. Moi, je trouve d'autant plus courageux de le faire. Quand tu as besoin d'aide et tu y vas et tu demandes et tu prends le temps de faire une introspection ou encore t'écoutes des proches autour de toi te dire « Hey, sais-tu quoi? Je pense que t'es rendu là puis je pense que ça te ferait du bien avec toute la bienveillance du monde puis tu décides de le faire. » J'ai beaucoup d'estime pour toi. Puis je pense qu'on doit faire en sorte de démocratiser ça et t'es pas vulnérable parce que tu vas chercher de l'aide. Au contraire, t'es fait fort, t'es courageux. Tu décides justement de prendre ta vie en main. Moi, tu m'impressionnes énormément. Si ça vous tente de vous confier là-dessus, c'est toujours la même façon de me rejoindre ici en studio, le 418-971-1021 ou encore sur Twitch. Je termine en fait avec c'est une nouvelle qui est particulière. Là. C'est un agriculteur qui fait face à un dossier de cruauté animale, 35 000 $ d'amende pour avoir laissé mourir son troupeau de vaches. C'est à Villeroy, c'est dans le centre du Québec. Des images que je ne vous conseille pas nécessairement, là, mais on voit justement des conditions terribles que vivent les animaux. Et c'est une lourde amende qui a été déposée à cet agriculteur-là qui a laissé mourir de faim son troupeau. Je ne sais pas pourquoi on est capable de faire ça. Puis c'est sûr que dans l'enquête, on va aller voir. Là, 49 bêtes qui ont été retrouvées sans vie, c'est pas rien. Comment ça allait en général pour ce propriétaire de ferme et ses propriétaires de ferme, parce qu'il y était deux, Rosa Ouellette et Lisa Dion. Ils ont été, condamnés pour 5 infractions, une amende de 35 000 $ comme je vous disais. Mais pour être capable de voir dépérir son troupeau comme ça, qui leur a permis de travailler, de subvenir à leurs besoins pendant de nombreuses années, d'avoir de la négligence comme ça, c'est vraiment, vraiment épouvantable. Les images, je vous le dis, là, au pire, fiez-vous sur ce que je vous dis au lieu d'aller voir ça puis d'être un peu choqué pour le reste de la matinée. Mais je me demande, est-ce que c'est pas une preuve encore de tout ce qui est détresse psychologique chez certains agriculteurs qui ne trouvent pas le bout, qui ne trouvent pas de relève aussi parfois, qui sont exténués, qui ne font pas l'argent qu'ils devraient faire pour justement nourrir les Québécois, les Québécoises, puis même faire rouler l'économie? Moi, je me pose beaucoup de questions là-dessus quand je vois ce genre de dossier-là qui est absurde à lire, oui, à constater. On est fâché, ça vient nous chercher, on est triste. Mais où est-ce qu'on était rendu mentalement pour être capable de faire quelque chose comme ça quand finalement ce sont ces animaux-là qui nous ont aidés à subvenir à nos besoins puis à vivre? Puis c'est sûr qu'ils ont aimé leur emploi longtemps. qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là, je pense, où il faut s'attarder aussi sur l'aide psychologique, encore une fois, puis l'entraide qu'on a pour nos agriculteurs, même aux financiers. C'est tout pour l'heure CV. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On se retrouve dans un instant avec Yannick Marceau pour Marceau le midi et Tom Gauthier.